Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis le site radioline.co.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui présentement vous arrive sous sa forme Extra Ball, notre petite sortie de route régulière qui nous permet de rattraper une sortie du moment. En l'occurrence, on va causer de King Arthur, celui-là même que Guy Ritchie s'est hasardé à réaliser et dont la dissection brève mais intense est confiée au bon soin de mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut.
Et Cénociné, Extra Ball spécial King Arthur, c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Ah, Guy Ritchie, l'homme à qui aucun mythe, aucune légende ne se refuse, ni Sherlock Holmes, ni Man from U.N.C.L.E., ni Madonna, et donc ni le roi Arthur, légende entre les légendes sur laquelle ils sont nombreux déjà à s'être cassés les dents, mais n'est pas Guy Ritchie qui veut, n'est-ce pas, Rafik?
Oui, que dire de King Arthur si ce n'est que c'est un peu du caca. Donc si tu veux, on peut arrêter
si
ici le Extra
caca,
Ball.
C'est voilà. Beaucoup de quoi.
Non, en fait, on est quand même dans la continuité de ce à quoi il nous a habitués, c'est-à-dire à, depuis le début de sa carrière, en fait. Hein, c'est un mec qui pédale derrière tout ce que d'autres ont posé avant lui. Il a débuté dans le sous Tarantino pour ensuite s'essayer... au sous je sais pas quoi, Zack Snyder peut-être un petit peu, en tout cas dans celui-ci, dans King Arthur,
il a fait du Sudan Boyle aussi à un moment plus ou moins,
il a fait du Sudan Boyle aussi, ouais. Voilà, bon, moi j'avoue, parce que j'ai parfois des déviances
profondes
voilà, mais qui sont liées aux formes en fait, et j'ai vu les deux Sherlock Holmes simplement parce que le cinéma me propose trop peu de rétrofuturisme et qu'il y avait que dans ces films-là qu'on pouvait avoir quelques vagues plans un peu steampunk et ça me manquait, donc je les ai matés pour ça. Je ne manque pas par contre de grands films médiévaux à me mettre sous la dent, donc du coup il y avait un intérêt beaucoup moindre à voir King Arthur, d'autant que son obsession sur ce film-là n'est... déjà il faut d'emblée insister sur le fait que ça n'a rien à voir avec évidemment sans doute la légende du roi Arthur. Au sens où...
Après, il y a plein de versions de la légende arthurienne. Enfin, disons qu'il y a plusieurs interprétations.
Il y a un maximum de versions de la légende du roi Arthur parce que c'est un mythe fondamental.
Qui
dit mythe fondamental dit qu'on joue sur des concepts absolument profonds, essentiels, complexes. C'est-à-dire tout l'inverse de ce que le film propose.
J'imagine bien.
C'est-à-dire que toute l'extraordinaire complexité qui se cache derrière le mythe arthurien et qui a été souvent bien servie par pas mal de gens, que ce soit John Boorman, que ce soit les Monty Python, que ce soit Alexandre Astier. Et je les mets sur le même plan parce qu'il faut savoir, ça c'est peut-être anecdotique, mais c'est intéressant, qu'il n'existe pas d'autorité sur le mythe du roi Arthur puisque c'est un mythe. Et que par exemple, si vous faites des études arthuriennes très sérieuses à Oxford en Angleterre, vous allez étudier Sacré Graal au même titre que vous étudierez Chrétien de Troyes. Et pareil pour Alexandre Astier. Ces récits sont pris très au sérieux parce qu'ils participent en fait à créer ce qu'on pourrait appeler le canon. On n'est pas du tout là. Là, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui trouve que son papa lui manque et qui est donc désespérément à la recherche de son papa. C'est ça, le film de Guy Ritchie. Essentiellement, sur l'essentiel de la durée, c'est un rip-off éhonté de Chevalier de Brian Helgeland, qui est un film qui, à mon grand désespoir, n'a toujours pas acquis la réputation qui devrait être la sienne, parce que c'est, je trouve, un film extraordinaire qui, à l'époque, était un peu passé inaperçu, donc je resitue, c'était une tentative de faire un film chevaleresque en jouant explicitement sur les anachronismes pour rendre ces personnages plus proches de nous.
C'était avec Heath Ledger, si
je c'était un des grands rôles même de
Heath Ledger.
Et donc, effectivement, dans Chevalier, il se mettait à danser sur du David Bowie au milieu de la cour. Mais il y avait d'un côté un respect historique C'est-à-dire qu'on était dans des enjeux sociétaux qui étaient typiques de l'époque, mais en même temps, pour ne pas que le public regarde ça comme quelque chose d'exotique, on lui présentait des personnages qu'il aurait pu trouver en descendant au pub au coin de la rue. Et c'est le parti pris de ce King Arthur, c'est de nous présenter une bande de bras cassés vaguement Ocean's Eleven, hein, qui prépare un gros coup, et ça se fait sur le modèle de chevalier, c'est-à-dire avec un ton de supporter anglais en vadrouille, quoi, un peu. Donc ça peut faire sourire éventuellement, ça peut de temps en temps gratter la beaufrie qui se cache
au fond de
chacun de nous, et je dis bien éventuellement, comme le film est quand même blindé de thunes. On a des plans, exactement comme dans Chevalier, des plans aériens au-dessus des villes médiévales, des choses qu'à une époque, on ne pouvait pas voir. Donc, je suis un peu désolé, moi, de devoir attendre des merdes comme ça pour pouvoir enfin voir ces plans-là au cinéma. Sauf que c'est développé d'une façon tellement bordélique qu'il n'a tellement rien à raconter et il ne s'intéresse tellement pas au mythe du roi Arthur qu'au bout d'un moment, le film arrive à une impasse. Et on se dit, bon, comment on va passer cette impasse-là? Comment on va passer le troisième acte? Et si on changeait de genre? Et donc, mais vraiment, il n'y a rien qui nous prépare à ça. C'est-à-dire que le dernier tiers du film, on est dans un univers parallèle qui est un mélange entre Dark Souls, 300 de Zack Snyder, un petit peu d'Oni Moucha, je crois, et Darksiders aussi.
Ah, très bien.
Donc voilà, comme ça, dans ta gueule. C'est-à-dire que jusque-là, on était dans un film qui, tout d'un coup, dont les producteurs ont dû juger qu'il n'était pas assez fantastique. Après tout, ça ne parle que d'épée magique et de Dame du Lac. Donc, où est le fantastique, s'il te plaît? Ah, ben, je vais vous en mettre. Et donc, bah oui, du coup, mon bad guy va tout d'un coup faire 2 mètres de haut, avoir une carapace brûlant de 1000 feux et ils vont se battre dans des plans vaguement ralentis et accélérés avec une caméra qui tourne autour à la Matrix, mais revisité façon 300. Et là, tu te demandes qu'est-ce qui vient de se passer? T'as un serpent géant qui t'arrive sur la gueule. Enfin, donc, ça aurait pu être fun si tout le film avait été comme ça, c'est-à-dire si tout le bordel jeu vidéo avait été assumé dès le départ, on aurait peut-être, je dis bien peut-être, retrouvé l'innocence d'un Gods of Egypt, qui est donc pour moi, je remercie encore une fois l'équipe de nos ciné de m'avoir obligé à regarder ce film-là. C'est un de mes grands souvenirs de l'année dernière.
Très bonne émission sur ce film.
Voilà, j'aime les films foutraques, j'aime les films infantiles au sens vraiment enfantin, c'est-à-dire qu'ils assument d'être des films pour gosses avec des idées débiles. Et effectivement, Gods of Egypt, c'était ça du début à la fin, si t'aimes ça, t'es parti pour 2 heures de non-stop. Sauf que Chevalier, tu vois, King Arthur n'assume pas ce côté gonzo. Il démarre avec des plans d'Oni Moucha, c'est-à-dire qu'on a des éléphants géants au tout début, tu sais pas pourquoi, tu sauras jamais pourquoi, mais il y a des éléphants géants qui défoncent un château. Après, donc, on a toute cette grande partie, entre guillemets, réaliste, et je mets des guillemets partout, mais donc, dont j'ai parlé de casse, en fait, où
un
heist typique. Ouais. Et donc tout le côté, ils sont où? Elles sont où toutes les créatures mystérieuses et géantes qu'il y avait au début, dont on n'a pas la moindre idée de leur origine? Et là, effectivement, il faut attendre la fin pour repartir complètement dans le grand délire gonzo. Sauf que, étant donné qu'il n'y a pas de logique et qu'on t'a demandé de te réajuster en tant que spectateur à chaque fois, ton plaisir, tu le prends pas, quoi. Sans compter que c'est un peu paresseux dans sa réalisation. Enfin, il y a plein de séquences qui ont clairement été filées à l'équipe d'effets spéciaux en disant démerdez-vous avec ça. Oui. En gros, l'idée, c'est que dès qu'ils chopent l'épée Excalibur, il rentre en fait dans une dimension entre guillemets un petit peu comme dans le cri spécial dans Skyrim lorsque tu arrêtes le temps, tu vois, et que tu peux commencer à tourner autour de tes ennemis en les tapant dans tous les sens. Bon, en gros, il fait ça. D'accord. Il a 50 soldats.
Super artefact.
C'est ça. Il a 50 soldats devant lui. Il prend l'épée, et puis tout d'un coup, alors que les soldats bougent à peine, lui, il fait ta 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 ta, et tu le suis en mode Zack Snyder. Voilà, absolument incohérent, gonzo dans le mauvais sens du terme. C'est pas aussi, parce que je les ai vus à 2 jours d'intervalle, c'est pas aussi pourri que le Alien, le dernier Alien qu'on a vu en salle, qui lui se prenait au sérieux. Voilà, parce qu'il a au moins ce mérite de savoir qu'il est quand même un peu en train de faire une grosse. Pas une grosse daube, mais une grosse pâtisserie dégoulinante de tous les côtés, quoi. Donc ça, au moins, c'est assumé. Ce qui n'était pas le cas de notre ami Scott, qui montait sur ses grands chevaux. Là, donc, voilà. Donc si
vous aimez la pâtisserie.
Le truc, c'est qu'en fait, voilà, tu sens qu'ils ont essayé de séduire un public qui est un public qui ne va plus au cinéma. clairement. Enfin, je veux dire, j'ai pas cité Dark Souls ou Nimosha pour rien. C'est vraiment, oui. On est vraiment dans l'œuvre.
Dans la citation de jeux vidéo.
C'est cet oncle insupportable au réunion familial, oui, qui veut absolument devenir copain avec le gamin, quoi. Il dit, mais regarde, moi aussi j'ai des jeux vidéo. Regarde, tu vois, regarde, Nimosha, c'est bien. Je sais le faire aussi. Non, moi, je préfère l'original. Donc, on comprendra que les mômes préfèrent rester sur leur console parce qu'au moins il y a une cohérence dans ce à quoi ils jouent qu'ils auront pas dans King Arthur. Mais, si vous n'avez vraiment rien d'autre à faire en bouffant vos carbonara le soir et que voilà qu'il y a un vague rip qui est passé par là, faites-vous plaisir.
Pourquoi pas. Voilà. Ou pour s'abriter de la pluie, j'avais un rédacteur en chef qui employait cette expression quand il parlait des mauvais films. King Arthur, donc c'est en ce moment au cinéma si vous avez le courage et notre temps est écoulé. Merci Rafik, merci à Jules à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, nosciné.com, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très bientôt.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.